Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de L'Aigleté. Nous vous proposons aujourd'hui un épisode un peu particulier. Nous recevons certes un journaliste, mais pas pour un article ou un documentaire. Nous recevons aussi un salarié de l'association La Chance que nous allons vous présenter tout au long de ce podcast. Bonjour Marc Epstein.
Bonjour.
Bonjour Baptiste Giraud.
Bonjour.
Marc, vous avez été grand reporter puis rédacteur en chef du service Monde du magazine L'Express. Vous vous consacrez désormais entièrement à votre rôle de président de La Chance. Le nom complet d'ailleurs de l'association, c'est La Chance pour la diversité dans les médias. Et vous, Baptiste, vous êtes notamment chargé de l'insertion professionnelle dans cette association. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous présenter la philosophie de La Chance ?
Oui, La Chance, c'est une association qui est née il y a une quinzaine d'années à peu près. Et elle a été créée par un petit groupe de tout jeunes journalistes. Ils sortaient tout juste de leur école de journalisme. À l'école, ils avaient été frappés par le caractère assez homogène de leur promo. Beaucoup d'enfants, de classe moyenne, d'ingénieurs, de profs, classe moyenne et supérieure. Et puis là-dessus, en commençant à travailler dans des rédactions comme journaliste, ils se sont aperçus qu'en fait, c'était toute la profession qui avait ce recrutement assez homogène, en tout cas dans les grandes rédactions nationales. Et ils ont pensé que c'était pas normal et qu'il fallait faire quelque chose. Ils sont retournés voir leur école d'origine et c'est ainsi qu'est née une prépa qui est entièrement gratuite et qui accompagne des étudiants boursiers qui viennent donc plutôt de quartiers populaires ou de zones rurales isolées et qui souhaitent passer les concours des écoles de journalisme.
Et si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce qu'il existe une antenne à Bordeaux qui va s'agrandir à la rentrée prochaine. Nous allons revenir sur tout cela, mais parlons d'abord de la genèse de cette association. Et pour bien la comprendre, cette genèse, il me paraît utile de rappeler comment on devient journaliste en France. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un diplôme pour exercer ? Est-ce qu'il faut impérativement passer par une école ? Baptiste ?
Pas forcément. Il y a la voie royale avec les 14 écoles reconnues, qui sont, bon, je ne sais pas si on va les énumérer maintenant, mais il y en a 14 en France, dont 12 qui recrutent à Bac plus 3 et 2 à Bac plus 2. Donc ça, c'est la voie, entre guillemets, royale, mais on peut passer par d'autres moyens. Soit il y a des instituts de formation qui sont rattachés aux écoles comme le CFPJ ou le SJ Pro, où là, c'est des parcours en alternance. Et sinon, bah, on peut aussi se lancer comme ça. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais on peut aussi se lancer en mode autodidacte.
Le truc, c'est que quand on passe par la voie royale, justement, ben, on gagne du temps, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on peut hésiter, hein, parce qu'après tout, ça ne va pas de soi de s'inscrire dans une école qui va retarder pendant deux ans encore l'entrée dans la vie active. Mais en fait, en passant deux ans dans une de ces écoles, en particulier une des 14 écoles reconnues, on gagne du temps plus tard, parce qu'on arrive dans les rédactions, on arrive dans la vie pro, dans la vie active, avec tout un tas de compétences qu'on a apprises, évidemment, dans ces écoles. Donc, passer par une des 14 écoles reconnues par la profession, c'est tout de même la voie express vers la carrière de journaliste.
Donc, 14 écoles reconnues, vous venez de le dire. Une partie d'entre elles sont gratuites, hein, c'est ça, Baptiste ?
Oui, une partie d'entre elles sont gratuites, notamment pour les boursiers, surtout celles qui sont rattachées aux universités.
Alors, il y a certes des écoles gratuites, mais encore faut-il arriver à Bac plus 3 ou à Bac plus 2, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et moins encore aux enfants des classes défavorisées, de nombreuses études le prouvent. Concrètement, cela donne un milieu journalistique dans lequel sont surtout présents des gens issus des classes moyennes et supérieures, vous le disiez. C'est un milieu très peu hétérogène, c'était vrai il y a 15 ans au moment de la création, vous le disiez Marc, mais c'est encore vrai aujourd'hui.
C'est encore vrai aujourd'hui. Alors, pour être honnête, il y a des progrès. En 15 ans, ne serait-ce que parce que la chance agit depuis une quinzaine d'années et que le profil des promos dans les écoles de journalisme est un peu plus divers aujourd'hui qu'il ne l'était il y a une quinzaine d'années. Ça se voit aussi, tout simplement, quand on est chez soi et qu'on regarde son poste de télévision. Il y a des couleurs de peau qu'on ne voyait pas. Pas forcément, il y a une quinzaine d'années. Il y a aussi des diversités qui sont moins visibles que ça, qui sont des diversités d'origine sociale. Nous, à l'agence, nous avons, par exemple, des jeunes qui sont des enfants d'agriculteurs. Nous avons des jeunes qui viennent de quartiers populaires, de quartiers périurbains. Dans ces cas-là, vous venez d'une sorte de minorité qui est peu représentée dans la profession et dans les promos des écoles de journalisme. Mais en même temps, votre présence, elle est essentielle, évidemment, parce qu'elle change les conversations au sein des écoles et au sein des rédactions. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line. Honey, I'm still free, take a chance on me. If you need me, let me know, gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown. Chance on me.
Alors, ce caractère homogène s'est encore accentué avec la naissance des classes préparatoires aux écoles de journalisme. Je crois que la plus ancienne date de 1992, mais elles se sont surtout multipliées dans les années 2000, aggravant encore ce phénomène d'homogénéité. C'est aussi dans ce contexte que la chance s'est créée en 2007, Marc. Ces écoles sont préparatoires, sont pour la plupart payantes, parfois assez chères. Il y en a qui sont jusqu'à 8 500 euros l'année, je crois.
Oui, on a un phénomène très curieux en France, qui est une espèce de course à l'échalote au diplôme. Vous avez des tas de pays, et non des moindres, où vous pouvez devenir, plus facilement qu'en France, vous pouvez devenir journaliste en apprenant sur le tas. C'est-à-dire que si vous êtes anglais, par exemple, vous pouvez passer par un endroit qui s'appelle la BBC Academy. Bon, c'est l'académie du service public britannique de l'audiovisuel. Et vous apprenez votre métier sur le tas et les choses se passent assez simplement. En France, ce n'est pas le cas. En France, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, vous allez gagner du temps si vous passez par une école. Là-dessus, on vous recommande chaleureusement de passer par l'une des 14 écoles reconnues par la profession. Et là où les choses se compliquent encore un petit peu plus, c'est que ces 14 écoles reconnues par la profession ne recrutent pour la plupart d'entre elles qu'à Bac plus 2, Bac plus 3, et qu'il est recommandé aussi d'avoir fait une prépa en amont de ces écoles, afin d'espérer rentrer. Parce que, en réalité, c'est une profession qui est certes souvent critiquée, mais qui continue à faire rêver beaucoup de jeunes. Donc il y a énormément de candidats et assez peu d'entrées dans ces écoles. Donc le passage par une prépa, avant les fameuses écoles, est devenu quelque chose de recommandé. Et en effet, comme la plupart des prépas sont payantes, eh bien, ça augmente d'autant le ticket d'entrée pour beaucoup d'étudiants journalistes.
Alors, vous l'avez dit, la chance s'adresse aux étudiantes et aux étudiants en situation de handicap ou boursiers. On va juste donner quelques chiffres. Combien sont passés par la chance en 15 ans, Baptiste ?
En 15 ans, si je ne me trompe pas, c'est environ 650 jeunes qui sont passés par la prépa.
Combien la chance compte-t-elle de bénévoles aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on compte 350 bénévoles actifs dans toute la France.
Et vous êtes 5 salariés.
Et on est 5 salariés.
Et peut-être, si je peux ajouter quelque chose, à force de grandir, quand vous regardez les fameuses écoles reconnues par la profession, vous avez environ un étudiant sur 10 dans ces écoles qui est un ancien de la chance ou une ancienne de la chance. C'est-à-dire que l'association, à force de grandir, elle est présente aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure, elle est présente dans 7 villes en France. Et à force de grandir, l'association, évidemment, a contribué à diversifier le recrutement des écoles de journalisme.
Qu'est-ce qui vous anime, Marc, vous et les autres bénévoles, mais aussi les salariés comme vous, Baptiste, tellement investis dans leur mission? C'est une question de justice sociale ou c'est aussi pour vous une nécessité pour notre métier de s'ouvrir à d'autres profils?
Les deux, en général. Moi, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans un grand média national, l'Express, le magazine, et j'ai assisté à des centaines de conférences de rédaction où on se retrouvait comme ça autour d'une table. Et je trouvais les conversations, alors certes, intéressante, hein, au moment d'une conférence de rédaction, dans un média comme ça, on discute des sujets qui sont dans l'actualité, mais aussi comment est-ce qu'on va les couvrir, à quelles personnes est-ce qu'on va s'adresser, quelles seront nos sources, quel sera le traitement journalistique aussi qu'on adoptera, quel angle, est-ce que ce sera une interview, un portrait, un reportage, etc. etc. Quand autour de cette table de conférence de rédaction, vous avez encore une fois des jeunes journalistes qui peut-être ont grandi dans une zone rurale. Vous avez des jeunes journalistes qui viennent de milieux différents, dont les familles éventuellement viennent à l'origine de pays différents, qui ont des croyances différentes. Bref, toute cette diversité, ces diversités, à commencer par la diversité d'origine sociale, c'est une chose qui enrichit les conversations. Et donc, pour répondre à votre question, il y a vraiment les deux facteurs. C'est-à-dire que c'est une question de justice sociale pour les intéressés, à commencer par ça. Hein. Mais c'est aussi cette diversité, elle contribue, in fine, elle contribue à la qualité de l'information. Quand les gilets jaunes, il y a quelques années de ça, se sont mis à porter des gilets jaunes, ces gilets jaunes qui réfléchissent dans la nuit, etc., c'est ça qu'ils réclamaient au fond. Hein. Ils se disaient invisibles. Ils ne se retrouvaient nulle part. Alors on pense ce qu'on veut des gilets jaunes et de ce qui est devenu le mouvement par la suite, mais c'est un peu la philosophie de l'association, c'est-à-dire de rendre visible l'ensemble de la diversité de la société française.
C'est difficile quand on vient d'un milieu populaire de s'imaginer devenir journaliste un jour.
Ce sont nos étudiants qui le disent. C'est assez terrible en France parce que nous avons un pays qui parle souvent de la promesse républicaine, qui décrit son école comme un creuset de la République. Mais la vérité, malheureusement, sur la base des rapports d'organismes comme les Nations Unies, comme l'OCDE, ne sont pas des gauchistes tout de même. Et ces rapports montrent bien que le système éducatif en France a tendance à maintenir les générations montantes dans leur classe sociale d'origine. C'est-à-dire que notre système éducatif ne favorise pas la mobilité sociale. Et le résultat, c'est que si vous êtes enfant d'agriculteur, si vous êtes issu de milieux modestes, assez rapidement, vous allez prononcer cette phrase terrible que nous, on entend très souvent, hein, à la chance. Je pensais que le journalisme, c'était pas pour moi. Ou pire encore, je pensais que le journalisme, c'était pas pour nous. Alors, c'est terrible, c'est vraiment une phrase terrible. Parce que, alors, c'est terrible dans tous les domaines. Ce serait terrible si on parlait de futurs médecins, de futurs ingénieurs. Mais c'est particulièrement terrible s'agissant du journalisme. Parce que le journalisme, c'est une profession, c'est un métier qui prétend raconter la France aux Français, en quelque sorte. Raconter ce qui se passe dans ce pays. Toute la diversité de l'actualité. Et si les seuls qui sont là pour raconter la diversité de l'actualité, ce sont des enfants d'ingénieurs, des enfants de catégorie supérieure, ben vous avez forcément une information qui sera certes intéressante, plus ou moins bien faite, mais qui sera malgré tout un peu biaisée.
Baptiste.
J'ajouterais même que cette phrase « ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour nous », même une fois que ces jeunes sont rentrés en école ou même sont en poste, elle continue à trotter dans leur tête.
Mais vous l'avez dit, le journalisme, c'est un secteur bien particulier. C'est aussi bien particulier parce qu'il y a beaucoup de précarité dans ce secteur-là. Vous n'avez pas l'impression de former des jeunes et de les envoyer dans un secteur où finalement ils auront peu de chances de s'établir parce que c'est un secteur difficile ?
Si, c'est quelque chose qui nous travaille parfois. Vous savez, quand les jeunes tapent à la porte de la chance, souhaitent, ça se passe souvent à l'automne, rejoindre la chance et bénéficier de cette fameuse prépa que nous organisons et qui les aide à préparer les concours des écoles de journalisme reconnues par la profession. Quand nous les rencontrons, c'est une question qu'on leur pose souvent. Vous n'avez pas peur, c'est un métier. Les premières années, quand même, sont synonymes de précarité, etc. Et très souvent, ces jeunes me répondent, mais vous savez, la précarité, je connais. La précarité, je me bats avec tous les jours. Et ce sont des jeunes qui sont habités par une passion, ils souhaitent devenir journalistes. Ils sont parfaitement au courant parce que nous leur disons, et plus tard, quand ils se retrouvent dans des écoles de journalisme, on le leur répète, peut-être même un petit peu trop d'ailleurs, que les débuts de carrière sont compliqués. Et c'est vrai que les débuts de carrière sont compliqués, mais la plupart de nos anciens, la grande majorité de nos anciens, nous expliquent, quand nous les interrogeons là-dessus, qu'ils n'ont aucun regret, que ce sont des journalistes heureux. Et nous, évidemment, on est très contents de les compter dans nos rangs.
Alors, Baptiste, Marc, on va parler maintenant de l'aspect régional des choses. D'abord, nous enregistrons aujourd'hui chez l'un des partenaires de Podcasting, l'IJBA, l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, qui est donc l'une des 14 écoles reconnues dont nous avons parlé tout à l'heure. Elle est gratuite et elle est aussi réputée laisser de longue date une place importante à des profils différents, justement.
Oui, l'IJBA, c'est une école qui a toujours mis ça en avant. Les fondateurs de l'école eux-mêmes souhaitaient ouvrir cette école à des profils, aux profils les plus divers possibles. Et précisément parce que c'est une des écoles reconnues par la profession qui se trouve être gratuite, c'est une école qui est largement ouverte, en particulier à des étudiants boursiers. Et nous-mêmes, à la chance, nous entretenons depuis toujours de très bonnes relations, bon, avec l'ensemble des écoles reconnues, mais tout particulièrement, je dois dire, avec l'IJBA. Ce qu'il y a, c'est que notre présence à Bordeaux était relativement discrète jusqu'à ces dernières semaines où nous allons être plus présents.
Oui, alors justement, hein, à Bordeaux, il y a donc une antenne de la chance ou une micro-antenne de la chance depuis 3 ans. À la rentrée prochaine, elle va s'agrandir et pourra accueillir jusqu'à 12 étudiants. Alors, qu'est-ce qui leur sera proposé exactement, Baptiste ?
Alors, comme dans tous nos pôles de France, il y aura un accompagnement tous les samedis avec des séances en présentiel animées par des journalistes bénévoles. Ce sont des séances type format conférence de rédaction où les étudiants auront rendu un papier qui sera corrigé par ces journalistes, qui seront ensuite aiguillés sur ce qui est bien, pas bien, ce genre de choses. Chaque étudiant sera accompagné toute l'année par un journaliste bénévole qui sera son tuteur ou sa tutrice. Et en plus de ça, il faut savoir que la chance accompagne financièrement aussi tous ses bénéficiaires, que ce soit pour financer ses concours, financer les déplacements parfois aussi, si c'est trop loin, ce genre de choses.
Et qu'est-ce qui se passe si, au terme de l'année d'accompagnement, on n'arrive pas à avoir l'un des concours des écoles reconnues ?
On propose un système d'accompagnement qui est appelé repasseur. C'est-à-dire que vous pourrez, à la suite de votre année à la chance, si vous n'avez pas les concours, recandidater, entre guillemets, à ce programme de repasseur qui est un accompagnement un peu plus léger. Il n'y a pas les séances tous les samedis, mais il y a le tutorat toute l'année.
Alors, il y a eu à Bordeaux, un premier étudiant suivi il y a 3 ans. Il y a 2 ans, c'était 3 étudiants. Aujourd'hui, ce sont 6 étudiants qui sont suivis par l'antenne bordelaise. On l'a dit, peut-être jusqu'à 12 à la rentrée prochaine. Ces étudiants doivent envoyer un dossier et ils seront sélectionnés après avoir passé un oral. Nous sommes dans une région très vaste. Est-ce que quelqu'un qui est à Biarritz, par exemple, ou à Niort, peut tenter d'intégrer l'antenne de Bordeaux?
Oui. Nous recrutons des candidats sur la ville de Bordeaux qui sont éloignés jusqu'à 1h30 de transport. Au-delà de ça, il y a l'accompagnement qu'on appelle coup de pouce, qui est le tutorat par un journaliste professionnel toute l'année.
Ces transports sont pris en charge par l'association La Chance.
Une partie, oui.
Oui, on peut habiter assez loin, au fond, de Bordeaux et candidater à La Chance. C'est quelque chose auquel on tient parce que, évidemment, les candidats qui se retrouvent un petit peu isolés parce qu'ils habitent une ville moyenne, parce qu'ils vivent éventuellement dans une zone rurale, ils doivent pouvoir profiter de la prépa de La Chance. Cela dit, c'est vrai qu'au-delà 1h30 de transport, nous hésitons à accueillir les candidats dans ces fameuses séances présentielles du samedi, d'autant que s'y ajoutent des cours d'anglais dans la semaine, qui sont des cours obligatoires. Et ces allers-retours, comme ça, s'ils doivent représenter plus de 90 minutes de transport aller, 90 minutes retour, ça finit par faire beaucoup et il vaut mieux bénéficier de cet accompagnement light, à distance, quand c'est possible, qui relève du dispositif coup de pouce.
Accompagnement à distance qui était uniquement proposé à Bordeaux jusqu'ici sur les 3 dernières années. J'ajoute, puisque nous sommes le podcast du Grand Sud-Ouest, qu'il y a aussi d'abord une école reconnue qui est à Toulouse, qui est payante, elle en revanche, mais il y a aussi et surtout une antenne de La Chance qui est bien installée et qui est notamment coordonnée par l'un de nos partenaires Médiacité, Gaël Cérès, le rédacteur en chef de Médiacité, avec son équipe qui font déjà un travail formidable depuis quelques années là-bas à Toulouse. Un dernier mot, quel est le taux de réussite, le pourcentage des étudiants suivis par La Chance qui intègre ensuite une école de journalisme?
Les 2/3 des étudiants, 65%, intègrent une école. Et sur le lot, quelques-uns intègrent une école qui n'est pas reconnue par la profession, mais à laquelle nous, La Chance, reconnaissons un vrai sérieux, et c'est un gage de qualité. Donc vous avez environ 65% des étudiants de La Chance qui intègrent une école. Et vous avez surtout, quand vous regardez l'ensemble des anciens de La Chance, vous avez entre 70-75% des étudiants qui deviennent journalistes. Parce que Dieu merci, il est encore possible en 2022 de devenir journaliste en étant formé, en quelque sorte, sur le tas et sans passer par une école. Et donc c'est vraiment enrichi par les 8 mois de prépa à La Chance qu'il se lance directement et avec succès.
Et 2/3, c'est un taux de réussite qui est quand même assez exceptionnel, parce que si on regarde par exemple pour l'IJBA, je crois que c'est plus de 900 dossiers pour 35 prix, à peu près un bon an mal an, c'est à peu près les statistiques, donc on s'aperçoit que c'est évidemment un taux important. Les candidatures pour la rentrée prochaine sont déjà ouvertes du côté de La Chance, elles se termineront à quelle date?
Le 10 septembre.
D'accord, et ensuite les euros se passent en octobre.
Courant octobre, il y aura les euros et puis la rentrée normalement est prévue pour fin octobre, début novembre.
Merci beaucoup Baptiste Giraud, Marc Epstein d'être venu présenter La Chance. Nous mettrons un lien évidemment vers l'association et tous les renseignements utiles pour pouvoir présenter sa candidature. La transparence m'oblige à dire que je fais partie de l'équipe de La Chance ici à Bordeaux. Et un mot un peu plus personnel, chères auditrices et chers auditeurs, vous aurez compris qu'une partie donc de l'équipe de podcasting est impliquée dans La Chance, puisqu'il y a également Marion Ruot. Il nous paraît vraiment important de faire connaître ce dispositif. Donc pour une fois, je me permets d'insister, faites tourner cet épisode. Aidez-nous à faire savoir dans toute la Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie que La Chance existe. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garay-Coetchea, Mathilde Leuil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taillem, réalisation Olivier Duval et notre stagiaire communication c'est Paul Hugo Guillotton. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications, encore plus aujourd'hui, vous l'aurez compris. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.